Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi. Un suspect en garde à vue pour le meurtre de Victorine, l'étudiante de 18 ans retrouvée en Isère. L'homme aurait avoué son crime. Jean-Luc Bougeon dans un instant pour les dernières informations. Emmanuel Macron ce soir à la télévision, sans doute pour annoncer de nouvelles restrictions. Comment les faire accepter et faire comprendre aux Français que l'heure est grave? Pourquoi les couvre-feux? Le virus serait-il plus virulent une fois la nuit tombée? Les réponses à suivre d'Adrien Becht et de Victor Delande. Dans l'actualité encore, l'annulation du salon de l'agriculture. Olivier Samain nous expliquera pourquoi une décision aussi précoce, 4 mois avant l'événement. Une nouvelle agression d'un policier dans l'Essonne, un membre de la BAC dans un état grave après avoir été renversé par une voiture. La nouvelle offre d'Apple pour la 5G avec des iPhones moins chers, nous dira Clément Le Saffre. Et le football ce soir, Croatie-France avec des spectateurs dans le stade, 7000 personnes attendues à Zagreb. Invité d'Europe Midi, l'ancien proviseur du lycée Turgot à Paris, qui raconte son métier, ses difficultés, ses succès. Christophe Barrand publie Monsieur le Proviseur.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Un suspect et des aveux pour le meurtre de Victorine, l'étudiante de 18 ans retrouvée dans un ruisseau en Isère. L'homme qui vient d'être interpellé par les gendarmes aurait reconnu les faits, Jean-Luc Bougeon?
Oui, effectivement, l'homme aurait passé des aveux complets devant les enquêteurs de la section de recherche de la gendarmerie de Grenoble. Alors ce qu'on sait, c'est que cet homme a 25 ans, qu'il a été interpellé hier en milieu d'après-midi à 15h20, nous indique le parquet. Il serait un père de famille. En revanche, on ignore où il habite, par exemple s'il vit à proximité de Villefontaine, là où Victorine vivait et a disparu le 26 septembre dernier. Pour l'heure, il est toujours entendu par les enquêteurs. Une perquisition a été réalisée à son domicile. Et ce matin, tout le périmètre autour du lieu de la disparition de Victorine, près du stade de Villefontaine, a été bouclé par les gendarmes et par les techniciens de l'identification criminelle. Peut-être pour y amener le suspect ou plus vraisemblablement pour vérifier un certain nombre de ses déclarations. Ce bouclage a duré de 7h à 8h30 ce matin et il est levé à l'heure qu'il est. Mais en attendant, ce père de famille de 25 ans, qui, donc, on l'a dit, aurait reconnu les faits, est toujours en garde à vue devant les enquêteurs de la section de recherche de Grenoble.
Jean-Luc Bougeon, le correspondant d'Europe 1 en Rhône-Alpes. La crise sanitaire et la tempête sous les crânes élyséens, comment annoncer au mieux des mauvaises nouvelles et surtout comment les faire accepter? Après 6 mois de crise, un premier confinement et des mesures de contrainte de plus en plus fortes depuis la rentrée. Adrien Becht, avant l'intervention de ce soir, le président et son entourage se posent beaucoup de questions sur la façon de faire comprendre aux Français que l'heure est grave et que de nouvelles restrictions du type couvre-feu deviennent nécessaires.
Oui, car au sein de l'exécutif, certains ministres regardent avec inquiétude les protestations qui suivent les tours de vis chez nos voisins européens, Espagne, Allemagne, Grande-Bretagne. La France risque de ne pas faire exception. Emmanuel Macron et Jean Castex le savent. On ne retrouvera pas le niveau d'acceptation du confinement, résume un conseiller. Le chef de l'État a donc 2 cartouches. C'est un peu carotte et bâton. Jouer le coach, selon la formule d'un conseiller, et dire que les premières mesures portent leurs fruits, par exemple du côté de Nice, de Bordeaux, et d'un autre côté, resserrer la vis avec des mesures plus fortes, comme un couvre-feu. Tout l'enjeu, ce sera de le faire respecter. Il faudra donc multiplier les contrôles. C'est la ligne, notamment, d'Olivier Véran. Le résultat espéré, c'est un changement d'état d'esprit des Français, un électrochoc résumé par un ministre, certes un peu cruellement. Pendant le confinement, on faisait son pain et on prenait du temps pour soi. Là, la vie va se résumer à bosser, dit-il. On comprend mieux pourquoi Jean Castex, qui avait prévu de se rendre en Corse cette fin de semaine, vient d'annuler son déplacement pour se consacrer au service après-vente des mesures annoncées ce soir.
Adrien Becht, l'interview du président par TF1 et France 2 débute avant 20h à 19h55. 3 quarts d'heure, pas plus, pour laisser place au football sur TF1, coup d'envoi de Croatie-France à 20h45. Sur ces éventuels couvre-feu ou confinement nocturne, c'est sans doute le terme officiel qui sera retenu, restaurateurs et barmen ironisent volontiers sur ce virus qui ne circulerait qu'après 22h. Mais Victor Delande, la plupart des épidémiologistes en sont convaincus. Les rencontres en soirée, les fêtes tardives sont au cœur de la dynamique des contaminations.
Oui, un chiffre pour commencer. Le taux d'incidence chez les 20-30 ans à Paris vient de dépasser les 800 cas pour 100 000 habitants quand le seuil d'alerte est fixé à 50. Alors au cœur de l'été, quand les chiffres, notamment chez les jeunes, commençaient à remonter, certains épidémiologistes, les plus rassuristes d'entre eux, les plus coupables aussi, parlaient d'épidémie sans malade. C'est-à-dire qu'au moment justement où les contaminations remonter doucement chez les jeunes. Rien ou presque en réanimation, pas de personnes âgées infectées. Sauf que début septembre, les premiers patients sont arrivés en réanimation, presque tous âgés entre 55 et 75 ans. Donc c'est bien les jeunes, très souvent asymptomatiques, qui, dans la sphère privée, contaminent leurs parents et leurs grands-parents. Pour Bruno Megarban, chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris, le couvre-feu peut justement agir à la racine du mal.
En instaurant un couvre-feu à partir d'une certaine heure, on va restreindre la circulation nocturne des personnes, notamment des personnes jeunes. On va restreindre l'interaction sociale avec le brassage et donc, de fait, on pourrait casser la circulation du virus parmi les jeunes et donc, par ricochet, réduire le risque de contamination intrafamiliale des personnes plus âgées.
Et si le couvre-feu est appliqué à des grandes villes comme Paris, cette mesure va toucher l'ensemble de la population. Tout l'enjeu, c'est de ne pas stigmatiser les jeunes. Ça pourrait avoir un effet contre-productif, me glisse un conseiller d'Olivier Véran. Avec le couvre-feu, tout le monde sera bien concerné, mais ce seront les jeunes qui seront visés en premier.
Victor Dolande, la crise jusqu'à quand ? Ce soir, Emmanuel Macron devrait tenter de fixer des échéances et des perspectives, mais mauvais signal, le prochain salon de l'agriculture prévu comme chaque année en février-mars n'aura pas lieu à 4 mois de l'événement. Pourquoi une annulation si précoce, Olivier Samin ?
Mais effectivement, en 4 mois, il peut se passer des choses. La situation sanitaire peut s'améliorer et rendre possible la tenue du salon, mais le scénario inverse est tout aussi envisageable et personne aujourd'hui n'est capable de faire des projections. Or, c'est maintenant que les engagements se prennent, c'est maintenant que les exposants doivent dire « oui, je viens ». Je réserve mon stand. Nous avons de nombreux exposants qui nous accordent leur confiance, nous disait hier soir l'un des dirigeants du salon. Nous ne pouvons pas les emmener dans le mur et leur dire trop tard, dans trop longtemps, que le salon est annulé. Voilà pourquoi nous en sommes venus à cette solution dès ce mois d'octobre. Il faut préciser que le salon de l'agriculture n'est pas assuré contre le risque pandémie. La prime exigée par les assureurs dépassait l'entendement, nous a-t-on dit ce matin. Si la décision de maintenir le salon avait été prise, c'est l'organisateur qui aurait dû dédommager les exposants en cas d'annulation décidée au dernier moment.
Olivier Samin.
Europe Midi. Patrick Cohen.
Dans un instant, la suite, encore un policier dans un état grave après un refus d'obtempérer.
Europe Midi. Patrick Cohen.
L'agression s'est produite dans la nuit à Savigny-sur-Orge, dans l'Essonne. Un policier de la BAC a été renversé par une voiture et son conducteur qu'il s'apprêtait à contrôler. Il est dans un état grave, Guillaume Bier.
Oui, ce brigadier de 40 ans, très expérimenté, est actuellement entre la vie et la mort après avoir été percuté la nuit dernière. Cela s'est passé juste avant 1h30 du matin dans un quartier pavillonnaire de Savigny-sur-Orge, dans un secteur où il y a fréquemment des cambriolages et des vols de voitures. Des policiers de la BAC aperçoivent un SUV qui sort d'une propriété et 3 personnes à pied qui tournent autour. Les fonctionnaires veulent les contrôler, mais les suspects partent en courant et le conducteur du véhicule, lui, accélère brutalement et renverse le policier devant lui avant de foncer vers la Nationale 7 à bord de cette voiture volée la semaine dernière. Sur place, personne n'a été interpellé, mais les policiers de la BAC ont tout de même eu le temps d'identifier le chauffeur car ils le connaissent bien. C'est un homme de 39 ans qui a déjà été arrêté plusieurs dizaines de fois d'après nos informations, essentiellement pour des affaires de vol. Son signalement a été diffusé à toutes les unités. Il est très activement recherché. Alors que cette nouvelle affaire, après celle de Herblay et de Champigny, ravive encore l'émotion des policiers, ils se rassembleront ce soir à Savigny. Leurs représentants syndicaux sont reçus demain à l'Élysée.
Guillaume Biel, le chef du service police-justice d'Europe 1. Apple prend le virage de la 5G. La firme à la pomme vient de présenter sa première gamme d'iPhone compatible avec les nouvelles ou les futures bandes passantes. Mais Clément Le Saffre, sur ces nouveaux appareils, Apple promet plus que la 5G ou moins que les tarifs habituels.
Oui, en fait, comme chaque année, on a l'habitude, Apple a présenté ses iPhones en grande pompe, une magnifique vidéo très préparée, mais en réalité, on n'est pas sur une révolution technologique. L'iPhone 12 est une version peaufinée de l'iPhone 11. Appareil photo amélioré, écran de meilleure qualité, nouvelle puce à l'intérieur plus puissante. La vraie nouveauté, on l'a dit, c'est la 5G. Apple n'est pas le premier fabricant à lancer un téléphone compatible. Samsung, Huawei, Google ont déjà pris les devants plus tôt dans l'année, mais l'iPhone garde son prestige, son aura. Un cadre d'Orange nous confie récemment que s'il y a bien un téléphone qui fera décoller la 5G, bien c'est l'iPhone et Apple l'a bien compris. La stratégie cette année, on le voit bien, c'est de nous inciter à renouveler notre téléphone. Donc, pour une fois, les prix ne vont pas augmenter. Ça reste cher, bien sûr, il faut le dire, mais ça n'augmente pas ou alors très peu. Pour 800 euros, vous avez l'iPhone 12 mini, une version plus petite de l'iPhone 12, mais avec les mêmes fonctionnalités, y compris la compatibilité 5G. Idem pour le modèle premium, l'iPhone 12 Pro, lui, c'est 1159 €, faut s'accrocher quand même, mais c'est exactement le même prix que le 11 Pro l'an dernier, sauf que vous avez la 5G, plus de mémoire et un appareil photo amélioré. Mais ça vaut pas forcément le coup de craquer tout de suite, hein. La 5G ne sera pas déployée en France avant la fin de l'année, et encore, ce sera uniquement dans quelques quartiers de quelques grandes villes. Pour réellement en profiter, il faudra attendre 1 ou 2 ans, voire 3 dans certaines zones rurales. Donc si vous avez un téléphone 4G récent, vous le gardez, vous mettez un peu d'argent de côté et vous attendez l'iPhone 13.
Merci pour tous ces bons conseils, Clément Le Saffre. Le football ce soir, après un match bien terne dimanche contre le Portugal, l'équipe de France affronte la Croatie en Ligue des Nations à Zagreb. Cyril de la Morinerie, vous êtes sur place. On ne sait pas si les Bleus vont retrouver le beau jeu, mais au moins ils retrouveront un peu d'ambiance au stade. 7000 spectateurs attendus ce soir.
Oui, dans ce pays d'un peu plus de 4 millions d'habitants qui n'a pas imposé le confinement, la vie continue. Bien sûr, les Croates font attention. Il y a des écriteaux, notamment dans les restaurants, demandant aux clients d'appliquer les gestes barrières. Mais dans les rues de la capitale, par exemple, le port du masque n'est pas obligatoire. D'ailleurs, ce soir, 7000 personnes pourront assister à la rencontre dans un vieux stade à ciel ouvert, confirme Lionel, franco-croate, qui habite Zagreb.
Le stade est ouvert complètement, il n'y a pas vraiment de toit. Du coup, il y a une bonne circulation d'air et le masque sera obligatoire au stade.
Et s'il n'y avait pas eu un violent séisme en mars dernier fragilisant 2 tribunes, il y aurait eu 3000 supporters supplémentaires. Bref, pour les Bleus, c'est la première fois depuis 11 mois qu'ils vont se produire devant autant de public. Le capitaine Hugo Lloris ne boude pas son plaisir.
Le football a besoin de ses supporters et ça animera également le match.
Et si Didier Deschamps est plus pragmatique?
Du moment où les autorités croates ont décidé que c'était possible, il n'y a pas à en discuter.
C'est que l'essentiel pour le sélectionneur est de gagner pour rester en course en Ligue des Nations.
Cyril de la Morinerie, envoyé spécial d'Europe 1 à Zagreb. Le temps, Anissa Dadi, pluvieux sur la moitié sud.
Oui, de la Gironde jusqu'aux Alpes, le ciel est couvert cet après-midi avec des averses fréquentes. Au nord de la Loire, une fois n'est pas coutume, il fait meilleur au nord qu'au sud. En Bretagne, en région parisienne, en Bourgogne, en Alsace, les éclaircies sont généreuses cet après-midi et le temps reste sec. Au nord, sur les Hauts-de-France, des Hauts-de-France jusqu'aux Ardennes, hein, en passant aussi par la Lorraine, et bien là, le ciel est un petit peu plus voilé, mais le temps reste sec. Sur les Alpes, les Pyrénées, le Massif central, il neige toujours. Depuis quelques jours maintenant, à partir de 1200 mètres. Au bord de la Méditerranée, le temps reste sec. Mais attention, le vent souffle toujours. Et en Corse, en Occitanie, là, les pluies sont plus fortes cet après-midi, avec un risque d'orage assez important. Les températures, toujours fraîches pour la saison, bien en dessous des normales. Avec 9 degrés à Rodez cet après-midi, 10 à Aurillac et Saint-Étienne, 12 à Belfort, 13 à Lille et Strasbourg, 14 pour Paris et Bordeaux, 17 à Perpignan et 20 à Bastia. Soyez très patients. Parce qu'à partir de samedi, les vacances de la Toussaint s'annoncent très ensoleillées.
Très bien, merci Anissa.